You're not the first detective to discover this body. D.I. Hillinghead, 1890. D.S. Whiteman, 1941. D.S. Hassan, 2023. And D.S. Maplewood, in 2053.
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers, notre podcast dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries SF, fantasy et fantastique. Ici Guillaume, et je suis ravi d'être aujourd'hui en compagnie d'Arnaud Tomassini, alias Arnaud Kikou sur les réseaux. Bienvenue Arnaud chez Spoilers, comment tu vas ?
Salut, ben merci déjà de ton invitation, puis ça va très bien, je suis toujours content d'être invité à droite à gauche, surtout quand il faut parler d'adaptation de comics, donc merci de me recevoir.
Le plaisir est partagé. Tu avais déjà participé à notre calendrier de l'Avent il y a 2 ans, enfin la première édition, voilà. Donc on avait déjà pu un tout petit peu échanger, mais c'est vrai que je m'étais gardé dans un petit coin de ma tête que il y aurait forcément une série dans laquelle ça serait intéressant d'échanger avec toi si le matériel d'origine était un comics. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Je rappelle rapidement, hein, tu es journaliste spécialisé comics et culture pop, rédacteur en chef du site Comics Blog, et co-créateur et animateur du podcast First Print avec Corentin, alias Babaduc sur les réseaux. En quelques mots pour nos auditeurs et auditrices qui connaîtraient peut-être pas First Print, c'est quoi un peu la promesse de ce podcast ?
Oui, ils sont sûrement très nombreux à ne pas connaître First Print vu qu'on est sur sur une culture de niche, donc qui est le comics, donc la bande dessinée américaine, et qui est vraiment voilà une culture assez niche en France. Déjà que la BD même en tant que telle, c'est déjà une niche, donc on est vraiment dans la niche de la niche. Mais First Print, la promesse, c'est un podcast qui vous permet sous de multiples formats de vraiment d'aller explorer la culture comics par tous ses supports et tous ses formats. Donc c'est un podcast qui est, j'allais dire, pas pléthorique, mais qui est généreux, on va dire, sur l'offre en tout cas, puisqu'on fait avec Corentin, comme tu l'as dit, hein, je fais ça avec lui. Ça fait depuis 2014 qu'on fait du podcast ensemble. On est passé sur diverses antennes, donc sur DC Planet, sur comicsblog.fr, et après on a monté First Print ensemble pour avoir vraiment notre propre média dédié à ça. Et donc ça fait quand même 10 ans qu'on parle de comics sur Internet. Donc on fait de la revue d'actualité 3 fois par mois. On fait des émissions de revues de bandes dessinées, de critiques de BD, donc de comics principalement, mais parfois d'un petit peu de production d'ailleurs, là, le plus régulièrement possible, puisqu'on est forcément des gros lecteurs. On fait comme ce qui est le cadre de cette émission, de la discussion et de la critique autour d'adaptation de comics. D'ailleurs, on va réparer un écueil avec ce spoiler, puisqu'on n'a pas parlé de Bodies. Hélas, on est un peu passé à côté. On n'a pas forcément pris le temps, donc c'est bien, tu m'as poussé à me rattraper sur une erreur faite avec First Print. Et surtout, peut-être, en tout cas ce qui me passionne le plus de mon côté, c'est surtout qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interviews avec des scénaristes, avec des artistes de BD, ouais, avec aussi des éditeurs et des éditrices, avec des traducteurs, Bah là, va y avoir aussi des gens qui sont à différents maillons en fait de la chaîne du livre, mais aussi des comédiens de doublage, des réalisateurs quand on a l'occasion. En fait, l'idée, c'est vraiment aussi de donner la parole à toutes celles et ceux qui font vivre la pop culture, donc parfois aussi même des organisateurs de salons de conventions pop culture. Voilà, on va dans le fond, c'est des interviews d'au moins 1 heure à chaque fois en fait, où on va vraiment discuter dans le fond du fond de leur travail, de leurs œuvres, de ce genre de choses là. Et on essaie aussi de faire des podcasts thématiques, de discuter du marché, de l'évolution du marché de la BD en France et tout ça. Bref, vous regardez le podcast, il y a, je crois déjà maintenant, presque 500 épisodes peut-être de sortie. Donc évidemment, il y en a qu'il ne faut pas rattraper. Tout ce qui est actualité, faut prendre le train en marche. Mais tout ce qui est interview et tout ça, je pense que des choses qui sont assez intemporelles, en tout cas, qui ont un temps de vie encore assez long. Donc si vous avez envie de découvrir un petit peu comment ça se passe dans la BD, dans les comics de façon générale, n'hésitez pas à faire un tour sur First Print, sur toutes les plateformes, je crois un peu comme vous, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais. Effectivement, alors pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu familiers avec le label auquel on fait partie, qui est donc le label Bonus Tracks, peut-être que vous avez déjà un tout petit peu entendu parler de First Print, parce qu'il y a quelques accointances, dirons-nous, entre certains podcasts du label et First Print. Mais en tout cas, si vous connaissez pas, c'est peut-être l'offre la plus, tu l'as dit, pléthorique. En tout cas, vous êtes
exhaustive,
très actif.
C'est ça que je cherchais comme mot.
Exhaustive, ouais, effectivement. Vous êtes très actif, très productif et il y a plein de formats différents. Donc c'est vrai que voilà, je vous invite tous et toutes à aller écouter ces podcasts, parce que même si en soi vous êtes pas connaisseur ou même justement que c'est un peu un univers qui vous intrigue, que vous avez envie de vous y mettre par un biais ou un autre, en fait je trouve que c'est aussi une bonne porte d'entrée sur certains sujets qui sont parfois à la fois, comme tu l'as dit, soit sur l'industrie, soit sur des lectures en particulier. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les intérêts.
Et je préciserais même juste que si jamais effectivement le nombre d'émissions peut vous faire peur, je les trie par type d'émission, et c'est, on a un site first-print.fr qui permet vraiment d'avoir les catégories et notamment d'aller justement pour les choses les plus accessibles sur que ce soit les interviews d'auteurs dédiés, les trucs sur les adaptations ou les podcasts thématiques, où justement là ça permet de faire le tri avec tout ce qui est revue d'actualité ou les formats voilà qui sont peut-être les moins nouveaux friendly, on va dire. Après ce que je dis souvent avec les comics, de toute façon, c'est comme le vélo, à un moment, faut se lancer, quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir des roulettes pendant 10 000 ans, faut juste prendre le train en marche. Moi, je l'ai pris en marche, hein, j'y connaissais rien à un moment, je l'ai pris en marche, et puis voilà. Et au final, on en parle tous les jours sur Internet.
Et puis c'est comme tout loisir, ouais. Art, il y a vraiment divers univers, diverses approches, du plus divertissant on va dire au plus littéraire quelque part. Il y a vraiment pour tous les goûts. C'est pas le comics n'est pas une entité comme tout un tas d'autres genres monolithiques dans lesquels tout est identique, quoi. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Moi, à titre d'exemple, je suis pas un grand lecteur, je me dirais pas être un grand lecteur de comics, mais par contre j'ai adoré lire Hellboy et ses dérivés, et c'est un peu ma porte d'entrée dans cet univers là que j'ai adoré franchir, quoi. Quoi qu'il en soit, on pourra en parler encore des heures, mais je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation, parce qu'effectivement, tu l'as dit, vous l'avez vu sur la miniature de cet épisode et sur le titre, on va parler aujourd'hui de Bodies, qui est donc justement adapté d'un comics. Donc petit pitch sur la série. Bodies, c'est une mini-série britannique, showrunnée par Paul Tomalin, qui avait écrit notamment sur Torchwood, hein, le spin-off de Doctor Who, et aussi sur la deuxième saison de une série assez... qu'on n'est pas trop, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je la connaissais pas, mais qui s'appelle The Frankenstein Chronicles. Bodies, c'est l'adaptation du roman graphique éponyme, édité en 2015 par Vertigo, écrit par Cy Spencer, malheureusement décédé en février 2021, et dessiné par tout un tas de gens. Donc, on a Dean Armstrong, Tula Lotte, Megan Hendrix et Phil Winslade. On verra peut-être avec toi s'il y a une raison pour laquelle il y a autant de dessinateurs sur le comics ou pas. C'est une série qui est disponible depuis octobre 2023 sur Netflix. Elle compte 8 épisodes de 50 minutes, dans lequel on retrouve un casting choral d'actrices relativement peu connues à l'international. Mais on peut citer tout de même Stephen Graham, qu'on a pu voir dans Band of Brothers et Broadwalk Empire, le Al Capone jeune, c'était lui. Kai Sollers, le fameux Cyril... Je me remettrai jamais, je crois, de ce prénom. Le fameux Cyril de la série Andor. Voilà, cette espèce de personnage un peu gris qui choisit d'aller vers l'Empire pour gravir les échelons de la hiérarchie. Ou encore Shira Haas, révélée dans Unorthodox sur Netflix également, et que l'on retrouvera, voilà, le monde est petit quelque part, dans le prochain film Captain America. Bodies, qu'est-ce que ça raconte rapidement ? Nous sommes à Londres en 2023 et la détective Shahara Hassan, interprétée par du coup la très bonne Amaka Okafor, découvre dans une ruelle sombre le cadavre d'un homme nu. Problème, le corps, en tout point identique de cet homme nu, a lui aussi été découvert en 1890, en 1941 et le sera très bientôt en 2053. Donc s'ouvre alors une enquête couvrant de multiples époques, de multiples personnages. Voilà un peu la prémisse de cette série, qui est donc cette espèce d'enquête à travers le temps et à travers divers personnages de détectives. On va pas en dire plus, parce qu'évidemment la série joue beaucoup sur ses mystères, on reviendra un petit peu dessus. Mais avant de rentrer donc dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, Bodies, c'est une adaptation d'un comics indépendant, et donc ça tombe bien, tu es spécialiste dans le domaine. Est-ce que ce comics, de ce que tu sais, il avait déjà bonne réputation, toi qui l'as lu, est-ce que... c'est plutôt un comics que tu avais apprécié?
Ouais, alors indépendant, c'est je vais juste faire le pin ailleurs, puisque ça a été édité à partir de 2014 chez Vertigo, qui était un label chez DC Comics, et DC Comics, c'est donc l'un des deux grands éditeurs de bande dessinée américaine. Donc même si c'est vrai que c'est une enclave un petit peu destinée à des projets en indépendant, en tout cas qui ont cette allure-là, je sais que c'est une notion qui pourrait faire débat. Alors je sais pas si tes auditeurs auront un ticket forcément là-dessus, mais c'est juste, voilà, c'est pas Image Comics, c'est pas Dark Horse non plus. Voilà, c'est, et en général, les titres qui sont là-bas d'ailleurs sont pas complètement ce qu'on appelle du creator owned, ça appartient pas forcément à leurs auteurs, c'est souvent quelque chose qui est plus du creator shared, avec les auteurs qui se partagent des droits, mais ça reste quand même une propriété de DC Comics au final. Moi, j'en rappelle très bien parce que bah, je rédigeais déjà sur Internet à l'époque où le premier numéro avait été annoncé puis sorti. Donc je me rappelle surtout de la couverture qu'on en avait fait à l'époque. C'était sur un site qui s'appelle DC Planet où on était vraiment voilà sur tout ce qui était DC et Vertigo. Donc Cy Spencer qui est encore vivant à l'occasion. Et donc s'il y a quatre artistes, c'est il y a une très bonne raison et elle est toute bien trouvée d'un point de vue purement artistique. C'est que chacun des artistes que tu as nommé en fait va illustrer une période temporelle donnée. Donc quelque chose qui est plus qui est plus difficile à faire forcément en termes de série télé, mais là-dessus c'était vraiment quand elle avait été annoncée vraiment et qu'on avait eu le premier numéro entre les mains, c'était quelque chose de très fort en fait et de très cohérent de ce point de vue-là, de se dire bah effectivement c'est à quatre périodes temporelles, parce que le pitch de départ c'est aussi la même chose, hein, c'est à quatre périodes temporelles différentes, le même corps est retrouvé. Alors il est un peu plus amoché que dans la série parce qu'il lui manque aussi des morceaux de chair dans les côtes et tout ça, c'est vraiment assez cradingue, mais donc et les époques temporelles sont un tout petit peu différentes puisque celle du présent c'est pas 2023, c'était 2014 vu que ça avait été fait en 2014. Et par contre, dans le futur, on est beaucoup plus, on est vraiment plus loin aussi. Donc voilà, c'est voilà quelques petites différences là-dessus. Et je me rappelle que c'était peut-être l'une des dernières mini-séries de Vertigo qui vraiment avait cette allure très britannique dans le ton. Cy Spencer, qui est de toute façon anglais, qui avait une écriture, je dirais, assez marquée. Avec des personnages qui étaient tous très forts de caractère, avec une intrigue qui n'hésitait pas à aller vraiment dans plein de directions différentes, ce qui fait même que l'ensemble peut paraître, je pense même à la relecture, peut apparaître assez confus au final, parce que et je me permets d'en parler là parce que du coup vu que la série n'a pas grand chose en rapport, mais on va vraiment dans des histoires de cabale qui s'étendent sur des millénaires avec le corps en question qui en fait, revient à la vie dans toutes les époques et se présente comme une forme de figure messianique, en fait, qui œuvre pour œuvrer sur le destin de l'humanité depuis très longtemps. C'est très, très, très riche dans ce que ça raconte. Et justement, on y reviendra après, mais je trouve qu'il y a des choix intelligents qui ont été faits par la BBC pour, en fait, donner un sens à cette adaptation qui, à mon avis, sinon est trop bordélique parce que c'est un comic book qui est vraiment très généreux, qui a vraiment cette qualité d'avoir quatre artistes qui sont très bons, alors qu'ils en plus ont grimpé de niveau depuis, parce que Tula Lotay aujourd'hui fait des bandes dessinées absolument somptueuses. Là, tu sens que c'était il y a 10 ans qu'elle n'avait pas forcément encore tout le talent qu'elle a aujourd'hui, même si elle en avait déjà, mais qui est donc très très forte et très très intéressante. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a beaucoup marché, puisque Vertigo était quand même déjà un label qui est en fin d'existence. Il arrêtera définitivement d'exister en 2019, mais là, justement, 2014-2015, c'était un peu la dernière grande tentative de DC d'annoncer des nouvelles séries et tout ça. Mais l'indépendant comics se faisait déjà chez Image beaucoup et allait se faire encore plus ensuite chez Dark Horse, chez Boom Studios, chez d'autres maisons d'édition. Donc c'était quand même un label en fin de vie. Mais en tout cas, du souvenir que j'en ai dans la rédaction, avec la rédaction que j'occupais à l'époque, c'était quand même une trouvaille plutôt sympathique. C'était un récit qui était très dense, justement, donc qui était intéressant à lire et analyser, et qui avait donc cette proposition artistique vraiment aussi très marquée, qui fait qu'on était content de la lire à l'époque, ouais.
J'avoue ne pas avoir fait de recherche dans ce sens, mais tu sais si du coup c'est dispo en France ?
Non, bien sûr que non. Enfin, je dis bien sûr, pardon. le fait que ce soit très très dense, très pas très très accessible non plus. Hein, je vais être honnête là-dessus. Fait que le potentiel commercial cette bande dessinée, je pense que l'éditeur à l'époque c'était déjà Urban Comics. Quand il a vu ça, je pense pas que ça allait forcément. Il s'est je pense pas qu'il se soit dit ça va se vendre beaucoup, déjà parce que le nom de Cy Spencer non plus est pas ultra connu. Ouais. Ils avaient testé 2-3 autres trucs hein, du Vertigo de cette époque qui, en plus de ce que je crois comprendre, n'ont pas non plus beaucoup marché. C'est hélas pas trouvable en VF. Par contre, je passais chez Shakespeare & Co à Paris il y a 10 jours et je l'ai vu. Justement, il était toujours mis en facing dans le petit rayon BD qu'ils avaient. Et j'imagine que c'est lié au fait qu'il y a la série qui est sur Netflix depuis peu.
Oui, la série a assez bien fonctionné, donc on peut peut-être imaginer en effet que au moins pour les librairies qui font un peu d'import, ça sera un peu plus trouvable en France peut-être après. Qui sait, on aura peut-être droit à une trad, mais bon, effectivement, comme tu as l'air de le dire, c'est assez peu probable. Vous le voyez pas là, mais Arnaud fait vraiment une tête genre non.
Oui, je mets ma main coupée que non, il vaut mieux prendre le temps d'apprendre l'anglais plutôt que d'espérer une VF de Bodies. Clairement, surtout qu'en plus vu que Vertigo n'existe plus, DC a fait beaucoup des pieds et des mains pour rééditer certaines choses, même des choses ultra connues comme Hellblazer. Ils réimpriment pas certains volumes d'Hellblazer qui sont pourtant en rupture totale aux États-Unis. Et Hellblazer, c'est Constantine, donc c'est une marque qui est très forte. Donc pour des titres publiés en fin de vie qui ont même pas dû s'écouler beaucoup d'exemplaires. Je pense que même du côté de la VO, je les vois même pas réimprimer ce genre de TPB. Donc, si ça vous intéresse, il y a 3 options, je dirais. De trouver sur des sites revendeurs, si ça existe encore, que ce soit alors tous les sites de librairie et tout ça. L'offre légale numérique, puisque notamment si vous avez un VPN, je pense que sur l'application de DC Unlimited, je crois que ça s'appelle, ou DC Universe, ça doit exister. Et l'offre numérique moins légale aussi en dernier recours, puisque voilà, sinon, quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, quoi. Mais là, je regarde, et je dis même une bêtise parce que ils l'ont réédité en octobre, en fait, chez DC. Donc en fait, je m'auto-contredis. Il y a quand même une édition plus récente qui a été faite pour la série. Mais ça montre au moins qu'ils sont malins de ce côté-là.
Il y a un peu de suivi, ouais.
Voilà, c'est 16€ en VO, du coup.
Ok, très bien. Bah merci pour ce fact-checking en direct. Moi, quand j'ai vu ça, enfin quand j'ai appris que du coup la série était adaptée d'un comics, je me suis assez rapidement dit que ça semblait être assez évident d'adapter des récits épisodiques justement en série, parce que j'imagine que Bodies a été édité en plusieurs volumes, enfin il y a eu comme ça un suivi de plusieurs épisodes les unes à la suite des autres, puisque c'est un petit peu comme ça que le comics est édité. Encore une fois, tu vas préciser un petit peu les choses, mais moi ça me semblait être du coup une évidence de le faire plutôt en série qu'en film. Est-ce que je crois que du coup j'ai retrouvé quand même trace d'une news que vous avez faite sur Comics Blog qui parlait du coup de l'arrivée de la série. Est-ce que la série, c'est un projet que t'attendais ou vraiment c'était un peu en périphérie
Alors, donc pour préciser, la majorité des bandes dessinées aux États-Unis sont publiées. Enfin, il y a deux. Je vais pas faire un. Je te promets, ça fera que 5 minutes d'explication. Mais en gros, il y a quand même le mode de publication historique, c'est ce qu'on appelle les single issues. Donc, c'est des fascicules d'une 20 à 30 pages de bandes dessinées qui sortent de façon mensuelle. Et une fois que tout est sorti, ou qu'un nombre de numéros est suffisant est sorti, c'est compacté en album, ce qu'on appelle les trade paperbacks. Et ensuite, ça sort aussi dans les comic shops, mais ça permet aussi d'avoir une distribution plus large à l'échelle de librairies non spécialisées dans les comics aux États-Unis. Donc, Bodies, effectivement, c'était un comic book à la base, c'était 8 numéros qui sont sortis de façon mensuelle, à rythme régulier, mais ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui maintenant à 16€, c'est la version en album. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que j'attendais cette série ? Non, pas du tout. Déjà, parce que c'est... contrairement à énormément des projets en plus dont on suit l'actualité avec Comics Blog ou First Print, c'est pas du tout un projet qui a eu en fait une actualité. C'est-à-dire que effectivement, quand je regarde Bodies sur notre moteur de recherche, on a 3 articles. En fait, on a l'annonce en février 2022 que le projet existe. Alors, donc ça c'est bien. Et ce qui se passe en général sur ce genre de choses, c'est que t'as des annonces de casting, tu recrutes parfois des scénaristes ou des showrunners, t'as ce genre de choses là, en fait, t'as parfois des visites de présentation. Non, en fait, là, il se passe un an et demi complet, et puis fin août 2023, on a le premier trailer qui nous dit « bah ça arrive en octobre », et en octobre, on a le deuxième trailer qui nous dit « bon, bah ça arrive dans 10 jours ». Et voilà. Donc c'est un suivi, mais d'un point de vue médiatique, alors que moi j'ai l'habitude d'avoir des choses où voilà, t'as plein d'annonces de casting, puis t'as les teasers, t'as plein d'autres choses qui se passent entre temps. Là, vraiment, c'était express, pas d'image de tournage non plus, ça s'est fait de façon assez discrète. Après, c'est pas un projet qui a une énorme envergure, parce que même si nous on connaît la qualité du bouquin, oui, on va pas se mentir, c'est pas un truc qui a fait des dizaines et des dizaines de milliers de ventes non plus. Je pense que c'est un projet assez confidentiel, et quelque part c'était même presque, c'est pour ça aussi que quand c'est sorti, en fait, on était sûrement dans un rush d'autres choses et qu'on n'a pas eu forcément la présence d'esprit d'aller quand même regarder, tout simplement parce que ça avait l'air d'être enfin les images des trailers avaient l'air d'être très bien, mais on se disait pas forcément si oui, ça a l'air d'être quelque chose d'incroyable et sans le souvenir forcément en plus de tout ce qui se passait dans la BD, effectivement c'était difficile d'avoir aussi le point de comparaison pour voir si ça allait dans des directions aussi farfelues que sur le papier. Et par contre, oui, donc, parce que j'avais oublié un point pour dire, est-ce que vaut mieux adapter du comics en série plutôt qu'en film? Ça dépend vraiment. Là, effectivement, vu la densité de ce qui est raconté, clairement, en série, c'est bien mieux, parce que t'es quand même dans 4 périodes temporelles, avec du coup 4 à 7 de personnages à chaque fois. Faut vraiment, ne serait-ce que le temps long, en fait, pour que les gens intègrent bien les périodes et les personnages. Effectivement, je pense qu'en film de 1h30, même 2h, en fait, c'est très très compliqué. Encore que Cloud Atlas, je pense qu'il y a une comparaison à faire avec Cloud Atlas qui montre que l'exercice est faisable aussi en format film. Après, t'as des BD qui sortent parfois, qui font une douzaine de numéros aussi, où clairement, par contre, l'histoire a un rythme plus lent ou un nombre de personnages plus restreint. Et donc ça, en fait, tu peux dire, justement, t'as pas assez d'une série télé pour l'étendre, donc tu pourrais le faire en film. Là, c'est vraiment... Faut vraiment voir en termes de contenu qu'est-ce qui est raconté et la densité de ce qui est raconté.
Ok, très bien. Et donc, comme tu l'as dit, une série qui est passée relativement inaperçue dans sa communication et qui est finalement arrivée chez nous sur Netflix en octobre 2023. À l'époque, tu ne la regardes pas, et donc c'est avec la proposition de ce podcast que tu finis par la regarder il y a quelques temps. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série?
J'ai bien aimé. Voilà, pour le coup, tu ne m'as pas fait perdre mon temps.
Ouais, c'est ça, ouf.
ça c'est une bonne chose, même si je trouve que le rythme a les longueurs habituelles des productions Netflix, qui vraiment, je pense, devraient arrêter de faire des épisodes de 1 heure à chaque fois, puisqu'il y a vraiment, en fait, plein de passages où tu sens que limite ils rallongent des scènes simplement pour que tu restes et que eux ils aient leur stat en termes de minutes regardées. J'ai vraiment l'impression qu'ils jouent à ça par moment et que c'est un petit peu artificiel. Mais j'ai trouvé vraiment très très bien ficelé. Alors personnellement, j'aime beaucoup Stephen Graham. C'est vraiment un acteur qui a une gueule et que j'étais vraiment très content de retrouver. Les autres, je les connaissais pas, mais j'ai trouvé qu'ils avaient tous une prestation franchement très très agréable. Je trouve qu'il y a une très bonne gestion des twists, cliffhanger et tout ça jusqu'à l'épisode 7, qui est pour moi, on va dire, l'épisode d'explication, en fait, où après donc t'es un peu plus, t'as moins de surprises. Mais c'est vrai que notamment l'épisode 6, je le trouve vraiment vraiment très bien. Ça aurait pu se conclure d'ailleurs à l'épisode 6, je trouve, qui a peut-être une forme d'épilogue qui était pas forcément nécessaire. Et vraiment en termes de aussi de reproduction des époques, je sais pas quel était leur budget, mais je trouve que ça fonctionne parfaitement. On arrive vraiment à distinguer chacune des périodes avec les travaux qu'ils ont fait un peu sur l'habillage, sur les costumes et tout ça. Donc c'est agréable de voir des projets qui se font pas de surcommunication, de surenchère, et qui veulent simplement proposer une histoire qui arrive à se tenir. Je pense qu'elle se tient, avec des acteurs intéressants, avec pas mal de choses du comics qui sont restituées, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont là, mais qui sont pas forcément les mêmes. Il y a des propos ou des thématiques qui sont bien là, même si elles sont pas abordées de la même façon. Et vraiment, dans le côté l'adaptation, il faut faire des choix. Là, c'est une à mon sens, une très bonne démonstration de... parce que sur First Print, on râle souvent quand c'est pas fidèle aux comics et tout ça. Mais on a conscience hein, que la fidélité, c'est pas quelque chose d'universel, enfin, qu'il faut appliquer à 100%, parce que parfois, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont très bien pour le milieu BD et qui peuvent pas être transcrites ailleurs. Et là, je trouve vraiment qu'ils ont réussi à faire les bons compromis hein, pour qu'on garde quand même le côté de l'histoire et qu'on garde une certaine... cohérence dans la proposition et en même temps avoir quelque chose qui soit regardable en fait, parce que je pense vraiment que adapter sensu stricto à la BD ça donne quelque chose qui est trop où on est sur des, enfin c'est plus par Netflix en fait, ça devient par une et pas par la BBC quoi, tu fais ça en tant qu'indépendant et ça devient trop bizarre et ça demande trop de moyens parce qu'il y a quand même certaines scènes à mon avis qui demandent trop de moyens, donc bel équilibre je trouve, d'un point de vue aussi simplement de producteur, de production, d'avoir réussi à faire ça comme ça. Mais vraiment, ouais, j'ai vraiment apprécié, quoi. Je trouve que c'est une série qui mérite qu'on s'y intéresse, quoi.
Et tu l'as dit, du coup, il y avait eu un choix sur le comics de prendre, évidemment, donc quatre dessinateurs et dessinatrices différentes pour représenter ces époques. Et de manière plus globale, la transposition, l'adaptation avec une espèce de simplification de son histoire pour être un peu plus digeste en format série, est-ce que cette distinction entre les époques, c'est un truc que tu as retrouvé ou ça a quand même été un petit peu gommé cet aspect-là? Parce que c'est vrai que on sent qu'à l'image, il y a un effort qui est fait au-delà de la reconstitution. On a une colorisation, pour être un peu simpliste, parce que ça s'exprime un tout petit peu différemment aussi quand même, mais des différentes époques, pour qu'on s'y retrouve aussi, tout simplement. Hein, et puis, pas mal d'effets de split screen aussi, qui se prêtent assez bien, justement, à la compréhension de révélations qui s'opèrent à différentes époques et par des personnages différents. Est-ce que ça, c'est des petites mécaniques de mise en scène? Est-ce que, en termes de couleurs, en termes de photos, c'est des choses qu'on peut retrouver dans le comics, enfin, qui rappellent le comics, où ils ont vraiment fait un choix... c'est la série qui a fait ce choix et c'est assez différent par rapport aux comics là-dessus.
Concrètement, quand vous prenez la BD, c'est quatre dessinateurs et dessinatrices qui ont des styles qui sont radicalement différents, donc il n'y a aucune confusion qui peut être faite dans l'époque. Hein. Il y en a un qui a un trait très très fin avec plein de griffures, on va dire. Megan Etrick, elle a un ancrage qui est beaucoup plus prononcé. La période futuriste notamment, c'est avec des couleurs très jaunes, très fluo partout et un trait beaucoup plus lâche. Donc vraiment, c'est ce qui fait la force aussi hein, de cette bande dessinée, c'est que c'est vraiment très 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 différent. Tu peux pas te tromper. Et en même temps, c'est aussi c'est normal hein, parce que si c'était quatre artistes qui dessinaient pareil, ce serait un peu compliqué.
Bien sûr. Et les styles sont mélangés au sein d'un même...
Non, par contre, jamais. Okay, voilà. Non, voilà, okay. C'est des séquences période par période et il n'y a jamais de planche où tu as deux périodes qui se mélangent. Ça aussi, je pense que c'est une condition de lisibilité, en fait. Hein, sinon t'es perdu. Alors, à l'écran, ça se voit moins. Je pense qu'ils auraient pu pousser les potards un peu plus sur des questions, ne serait-ce que de contraste, en fait, ou de photographie, c'est-à-dire d'avoir plus de bleu pour la période 1940, d'avoir quelque chose d'encore plus gris et plus sombre pour la période de 2053 et ce genre de choses-là. Mais tu sens quand même, en fait, que tu reconnais les époques, donc en soi, ça m'a pas dérangé. Et c'est vrai, par contre, que les split screens, là, merci de... Je cherchais le terme, mais merci de me l'avoir retrouvé. Dans ma tête, du coup. Mais ouais, très très bonne idée, en fait, de mettre à certains moments pour les transitions, pour parfois mettre trois ou quatre personnages en même temps, pour bien montrer aussi cette façon qu'ils ont de tous enquêter sur le même mystère et tout ça. Ça, je trouvais que c'était vraiment une très très chouette idée. Puis c'est con, mais le split screen, ça rappelle tout simplement les cases aussi. T'as la gouttière qui se crée, ça rappelle des cases de BD.
Complètement.
Et voilà, pour les fans de BD, il en faut peu, hein.
Non mais oui, effectivement, il y a le découpage, c'est, je pense, relativement issu de l'arc séquentiel, de la BD et tout ça. Quand on fait du split screen, ça évoque assez vite ce genre de choses. D'ailleurs, pour l'anecdote, le générique, qui est très sobre, est plutôt élégant et
très bien,
est
ouais.
Directement adapté de la couverture des comics, avec vraiment cette typo où ces lettres sont coupées à 50% et représentées avec des petits éléments un peu cryptiques qu'on retrouvera dans la série. Donc, ça, c'est vraiment pour l'anecdote de la fidélité, on va dire, au matériel d'origine. Moi, de mon côté, globalement, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt une série que j'ai appréciée. Déjà, quand tu abordes la série, effectivement, ce qui te saute aux yeux, c'est clairement qu'il y a quelque chose d'assez ambitieux dans cette représentation de quatre époques différentes. Enfin, déjà, quand on fait une série d'époques, on se dit déjà que ça demande quand même des moyens pour recréer les lieux, les costumes, etc., etc. Là, ils en font quatre d'un coup, et on sait que c'est quand même une série aussi qui a pas non plus un budget incroyable, et aussi une projection dans le futur, ce qui là aussi peut être assez casse-gueule, et ce qui est du coup marrant, c'est que en effet ils ont fait un choix d'adapter cette période temporelle pour ne pas la placer si loin dans le futur, et je pense que quelque part peut-être que c'était un choix pour justement faire un futur qui est pas si loin teint d'une autre technologiquement. En tout cas il y a des petits éléments évidemment qui vont nourrir cet aspect futuriste, mais c'est pas non plus un truc complètement inconnu. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que c'est un futur dans lequel il y a des Renault qui sont très identifiés comme étant des Renault. Je pense que c'est un des c'est un Blade Runner dans lequel il y a des Renault qui se baladent, c'est assez rigolo. Mais donc il y avait effectivement ce contexte ambitieux et que j'ai plutôt apprécié, tu l'as dit, la reconstitution à chaque fois est plutôt cool, et en plus c'est dans des moments qui sont pas toujours en plus très évidents, notamment donc en 1940, ça se passe pendant la Seconde Guerre, donc avec les bombardements sur Londres, etc. Enfin, on sent qu'ils se sont un petit peu rajoutés des difficultés aussi en termes de représentation, et en même temps ça marche bien parce qu'il y a vraiment de la mise en scène par rapport à ça qui est assez cool. Moi j'ai trouvé que la durée, contrairement à toi, était pas forcément un frein, dans le sens où je trouve que c'est une série qui prend son temps, ça c'est assez cool. On va dire que globalement 50% de la série c'est vraiment l'installation du plot et tous les mystères qui vont avec. On va vraiment avec les personnages essayer de décrypter ce qui se passe, décrypter ce mystère, et la série vraiment, prend vraiment son temps pour le présenter. Donc moi j'ai trouvé que c'était plutôt quelque chose de positif, et pour le coup en termes de casting, le truc qui m'a peut-être sorti, c'est le cast du personnage qu'on va retrouver pendant toute la série et qu'on va découvrir surtout au début, qui est donc un personnage qui s'appelle Elias, et pour moi l'acteur est en surjeu total, et ce personnage en plus apporte quelque chose dans la série, il est important, et on va découvrir plus tard qu'il est associé à un autre personnage, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas dans cette association. Bon voilà, je sais pas si c'était voulu de créer une distinction aussi forte. L'acteur joue un rôle qui est pas facile, hein. Il joue le rôle d'un adolescent qui est vraiment perdu, qui a peut-être des soucis psychologiques, qui est donc et qui est poursuivi en plus et tout, donc on est vraiment dans un personnage qui est un peu en perte de repère. C'est compliqué à jouer, mais en même temps je trouve que pour le coup il m'a un peu sorti du truc dans cette espèce de surjeu un peu trop cliché, quoi. Mais mis à part ça, effectivement les personnages sont super bien campés, et je trouve que la série, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que la série se vend clairement dans ses trailers par un aspect très SF fantastique, avec voilà, ces mystères qui s'opèrent sur plusieurs époques. Mais en fait, le cœur de la série est pas du tout là. Et le cœur de la série est presque un truc qui est très cuculapraline, puisque en fait, la série va vous parler d'amour. Voilà, tout simplement. En tout cas, ça va être le ressort scénaristique qui va un peu tout lier. L'amour filial, énormément. L'amour qu'on attend des autres, l'amour qu'on ne reçoit pas, l'amour qu'on donne. Il y a énormément de choses qui sont autour de cette notion-là de respect et d'amour qu'on peut avoir envers l'autre, envers celui qu'on ne connaît pas aussi, parce que il y a beaucoup dans la série, ça je sais pas si c'est quelque chose qui ressort aussi du comics, mais la thématique des minorités, ça c'est quand même quelque chose aussi qui est vu à travers le prisme de chacune des époques, puisque le premier inspecteur au 19e, il a voilà une certaine un certain trait de caractère, dirons-nous, une certaine spécificité qui colle pas trop avec son époque. L'inspecteur.
Tu penses que c'est spoilers de le dire ou pas ?
Je sais pas, je suis toujours un peu entre deux os, mais disons que ouais, allez, allons-y, écoute.
Au pire, si vraiment, vraiment vous voulez rien savoir, quittez le podcast pour le moment et revenez.
C'est pas un grand mystère.
Je veux dire ça, qu'il y a l'inspecteur Illinghead est homosexuel.
Voilà, c'est ça.
Charles Whiteman est juif à la période de la Seconde Guerre mondiale, et Shahara est musulmane. Donc dans l'Europe contemporaine dans une Angleterre où elle doit, en tant que policière, surveiller des manifestations d'extrême droite. Ce qui est marrant, par contre, c'est que le comic s'ouvre exactement avec ce même type de manifestation, alors que c'était en 2014. Okay. Donc, en 10 ans, il n'y a rien qui a changé là-dessus.
Ça, c'est mauvais signe,
ouais.
Et donc le personnage, tu as bien retenu les personnages des inspecteurs, je les ai pas notés en mémo, donc mais le personnage du coup d'inspectrice du futur, elle est invalide, aidée par un dispositif futuriste qui du coup voilà quoi,
qui lui permet de marcher,
mobile, ouais. Mais c'est ça, mais elle a perdu ses jambes dans un des plots de la série. Et ça, bah, au-delà de l'enrobage qui est excellent, de du coup des décors, de du plot, de l'histoire, de tout ce truc très entremêlé de temporalités diverses, on a vraiment, c'est ce qui donne vraiment à la série du cœur, ce rapport qu'ont les personnages, et du coup ça donne aussi une vraie densité au personnage, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans un récit ou d'action où on va aller à 100 à l'heure, on va vraiment se poser, il va y avoir vraiment des échanges entre les personnages, ils vont avoir un passif, ils vont être tous liés entre eux. Et je trouve que, pour le coup, moi, c'est ce qui m'a permis aussi vraiment d'apprécier la série. Je sais pas si c'est un aspect qui t'a marqué aussi.
C'est vrai que, à leur décharge, c'est des personnages, en fait. Et dans le sens où, tu sais, ils ont un vécu, ils ont un background, mais vraiment, ils ont une histoire derrière eux qu'ils n'ont pas juste donnée par des dialogues ou par de l'exposition. En fait, tu t'aperçois effectivement, bah, dans les interactions que Shahara, elle a, bah, justement, dans cette scène de manifestation ou avec ses collègues qui lui font des réflexions, tu la vois dans ses lieux de vie aussi avec le reste de sa famille, tu as plein de choses qui sont développées. C'est des thématiques qui étaient déjà présentes dans la BD aussi, hein. D'ailleurs, même sur le côté de Illingad avec l'homosexualité, c'est beaucoup plus cru dans la façon dont c'est abordé dans la BD que dans la série. Mais vraiment, tous ces éléments sur White Man, la Seconde Guerre mondiale et tout ça, il y a vraiment tous ces petits éléments qui sont perdus. Peut-être que le seul qui est vraiment très très différent, c'est par rapport à Maplewood dans le futur, qui n'y a pas du tout ce délire de d'augmentation. D'aide cybernétique là, mais parce qu'il y a aussi pas mal de points de scénarios qui ont été radicalement changés aussi pour que ça soit plus resserré peut-être et qu'on se concentre vraiment sur l'intrigue de ce fameux corps qui est retrouvé, de qui l'a tué et de pourquoi, sachant qu'il y a une, je dirais que sans rien spoiler, qu'il y a une dimension plus tangible et plus terre à terre malgré le côté SF dans la version télévision, alors que dans les comics vraiment le corps appartient vraiment à une forme d'entité, ce que je disais, un peu surnaturelle en fait, qui est là depuis des millénaires.
Ouais, ça effectivement on l'a pas, on est plutôt sur quelque chose qui est très à la fois quelque part politique dans l'idée générale de la mise en place de du plot et de la construction de cette intrigue, et pas tant effectivement spirituel.
Puis j'ai pas trouvé forcément que pour Elias c'était un miscast en ce qui me concerne.
Ok, toi t'as plutôt apprécié, ouais.
Ouais, puis même dans les motivations, je pense que vraiment que le côté sur le discours sur l'amour, c'est parce qu'effectivement t'as une phrase qui est répétée sans cesse, qui est le Know You Are Loved, qui vient aussi de la BD, donc il y a une autre signification, mais je pense qu'ils sont pareil, c'était un exercice de dire bon, ce gimmick il est hyper fort par contre, jusque c'est une phrase que tu vois répéter sans cesse au travers des siècles, comment on fait pour l'adapter dans notre contexte de série, comment on fait quelque chose, et effectivement au final, qu'est-ce qui te pousse à vouloir être mauvais contre les autres si c'est pas le fait justement de pas avoir connu l'amour de quelqu'un et que t'as pas été constamment rejeté. Et moi je trouve justement, c'est dans l'épisode 6 je crois, une scène de non-retrouvailles avec une maman qui est poignante en fait, qui est aussi un point de bascule pour certains des personnages, et je trouve que tu comprends en fait tout ce que ça veut dire. Et quand ça sort en 2023, et vu qu'on est sur tellement d'individualisme, sur tellement d'indifférence de plus en plus marquée en fait pour les autres, que ce soit au travers des évolutions sociétales et géopolitiques, je trouve pas ça si cucu en fait, de dire en fait faut aimer son prochain et sans aucune dimension religieuse ou quoi que ce soit, quoi, juste c'est une question d'empathie ou d'amour, on va dire, fraternel en fait vers les autres, et j'ai du mal à trouver ça cucu vis-à-vis de l'époque dans laquelle on vit en vrai.
Moi, je n'ai pas trouvé l'acteur très convaincant, mais j'ai quand même trouvé qu'il avait des belles scènes. Et effectivement, le personnage, par contre, je l'ai compris et je l'ai accompagné dans son chemin sans aucun problème. Moi, je suis à 100% client, on va dire, de ce genre de propos et de ce genre de philosophie. Quand justement, on ramène, c'est souvent ce que je dis dans Spoiler, c'est la différence que j'ai de perception entre une série que je vais juger un peu oubliable, un peu osef, et une série que moi, je vais apprécier, que je vais trouver intéressante, c'est justement le degré d'émotion, quoi. Yeah. Si une série me donne de l'émotion, c'est gagné. Et effectivement, je dis cucu parce que On s'attend pas spécialement à trouver au cœur d'un récit qui est pas du tout vendu comme ça, ce genre de message, quoi. Mais au contraire, en effet, t'as raison, c'est super précieux et en effet, c'est important aussi qu'on ait des récits qui montrent que ça peut provoquer aussi beaucoup de mal de manquer justement de ces connexions qu'on peut avoir avec les autres et de l'attachement qu'on peut créer autour de familles qu'on a choisies qu'on a de base, quoi. Donc effectivement, c'est plutôt un parti pris qui est intéressant et qui vient détonner par rapport à l'image qu'on se fait un peu de la série. Et en même temps, en te le disant, tu vois, je me rends compte aussi que c'est aussi un ressort scénaristique qui est assez classique aussi quelque part, de faire appel à des sentiments et puis à ce que les personnages aussi transportent à l'intérieur d'eux-mêmes comme valeur et comme besoin, quoi. Donc c'est plutôt intéressant, mais en tout cas moi je m'attendais pas à ce que tout tourne autour de ce truc-là. Et effectivement, comme tu l'as dit, le No You Are Loved qui revient sans cesse dans la série, revêt vraiment cette importance de en fait de ce que ça veut dire, quoi. Enfin presque on lui donne un truc très mystérieux dans la série. Mais en fait, la raison de son existence, c'est vraiment ce que ça dit, quoi. C'est maintenant tu es aimé, maintenant tu es quelqu'un pour moi. Et du coup, c'est un parti pris qui est assez intéressant quand même, effectivement, dans la série, que moi que j'ai apprécié. Et d'ailleurs, je voulais faire aussi un petit parallèle. Enfin, en tout cas, on a beaucoup vu la série, notamment aussi parce qu'elle est sur Netflix et parce qu'elle a fonctionné. On a beaucoup vu la série être rapprochée de Dark, qui est une autre grande série avec des temporalités différentes et beaucoup de personnages. Moi, je voulais dire aussi pour du coup nos auditeurs et auditrices qui hésiteraient à se lancer dans Bodies, c'est beaucoup moins compliqué que Dark. On retrouve un peu effectivement cette espèce d'ADN parfois de personnages qui vont évoluer d'une temporalité à l'autre, qui vont donc être incarnés par des personnages différents, des acteurs, pardon, différents selon l'âge qu'ils ont. On retrouve éventuellement un petit peu sur le début de la série cette espèce de truc très entremêlé qu'on comprend pas tout de suite et qu'il faut démêler. Mais vraiment, comparé à Dark, Bodies est beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus clair et l'enjeu n'est pas tellement sur cette espèce de puzzle temporel, puisque très vite, en fait, on va le dénouer un peu promis de la saison, on va comprendre quels sont les enjeux et on va partir sur autre chose dans la deuxième partie de la saison, de la série. Donc pour ceux qui auraient un peu peur éventuellement de cette complexité, elle est pas vraiment présente dans Bodies. Et d'ailleurs, peut-être que du coup, si elle l'est plus pour d'autres aspects dans le comics, ils ont encore une fois fait un travail d'adaptation qui est plutôt intéressant dans la série, quoi. D'ailleurs, on parle de série, on parle de saison depuis tout à l'heure. Ma langue a très certainement fourché à de multiples reprises parce que, comme je l'ai dit en introduction, la série, elle a été présentée par Netflix comme une mini-série. On le sait, Netflix annule à tour de bras ces derniers temps des séries qui parfois ont une ou deux saisons à leur compteur. Et par contre, on commence à voir fleurir un peu plus de séries événementielles, de mini-séries. Donc Bodies a été présenté comme tel. Mais pourtant, et attention, spoilers, là pour le coup, c'en est un vrai entre guillemets, même si ça ne gâche pas ce que la saison va raconter, la mini-série, la saison, va quand même ne pas pouvoir s'empêcher de se terminer dans cette dernière seconde par quelque chose de plutôt ouvert. Et du coup, moi j'avais deux questions par rapport à ça, c'est comment t'as perçu ce truc-là? Est-ce que ça a été une déception ou plutôt t'as levé un sourcil et tu t'es dit « Ah tiens, intéressant », et est-ce que c'est présent dans le comics, cette ouverture?
Non, c'est pas présent dans le comics, cette ouverture. Déjà, okay. Parce que ça a une fin beaucoup plus fermée en tant que telle. C'est pas du tout une BD qui appelle à une suite, parce que même en termes d'une fois que t'as fait le concept principal et que t'as évacuer l'intrigue, enfin que t'as élucidé le mystère, en tout cas dans la BD c'est clair que tu vas pas y revenir, il y a pas quelles sont les prochaines aventures de telle ou telle personne. Donc en fait ce qui se passe dans la scène en question, effectivement ça m'a, enfin je sentais venir parce qu'effectivement t'abordes si tu veux, une fois que t'as résolu toute l'intrigue, on te dit juste en termes d'épilogue où sont les personnages que t'avais suivis, et en fait t'en vois que trois. Donc forcément tu dis, mais attendez, moi j'en ai suivi 4 tout du long, donc il faut qu'on me ramène cette 4ème personne. Et donc la façon dont cette personne est ramenée, je m'y attendais très clairement. Après il y a un autre détail, c'est plutôt un sigle que tu vois sur un building qui là aussi te laisse apprendre quelque chose. Alors c'est un sigle qui est présent dans la BD. Personnellement j'y vois juste plutôt justement un ultime easter egg au comic book, mais à moins que j'ai vraiment loupé un truc d'une grande importance, en fait, je vois pas trop en quoi, en fait, tout cela pourrait amener à une suite. Donc, limite, tu sais, parfois, c'est comme dans un film d'horreur où le tueur se relève à la fin quand même, où techniquement, c'est-à-dire ouais. que ça continue, mais t'as pas une nécessité, en fait. Et moi, je le vois plutôt comme un truc comme ça de... effectivement, si tu... En même temps, je dis ça, mais c'est Netflix, hein, c'est la BBC, donc bien sûr que s'il y avait un énorme succès, il voudrait conduire, mais pareil, qu'est-ce que tu veux faire? T'as résolu l'enquête, le mystère du corps, il a été élucidé, il y a quand même toute l'intrigue, elle est terminée, il n'y a pas besoin de la reprendre, donc si c'est juste pour dire, on va voir continuer d'évoluer ces quatre personnages, mais sans qu'il y ait le point d'attache qui est la découverte du corps, je trouve pas ça très très intéressant. Donc à mon sens, j'estime juste que c'est bien aussi de réussir une mini-série et de proposer une histoire en un bloc de 8 épisodes et ensuite de féliciter du coup le showrunner et les créateurs et de dire bon, qu'est-ce que vous voulez faire après ? Faites autre chose, mais faites-le aussi bien.
Oui, clairement, effectivement, il y a aussi ce truc de ne pas toujours créer de franchise à partir d'un premier jet de quelque chose qui serait convaincant. C'est pas une obligation et on verra ce qui se passe. D'ailleurs, la série a plutôt bien fonctionné à l'international, comme je le disais un peu plus tôt, et en France, elle a même dépassé Lupin dans les premières semaines de diffusion, qui est quand même un des gros succès de Netflix sur ces dernières années. Bon, le showrunner, lui, de son côté, il évoque à demi-mot que, éventuellement, s'il y avait du succès, comme d'autres l'ont fait avant lui, il serait pas tout à fait contre lancer l'écriture d'une saison 2. Donc, je pense que malgré le fait qu'effectivement, on puisse considérer que la fin de la saison et donc de cette mini-série soit cohérente et n'invite pas forcément à plus d'explications, il trouverait toujours une manière de faire. Après, il y a eu des exemples qui sont qu'on peut juger ou pas de qualité, mais qui existent hein, et qui peuvent d'ailleurs être parfois intéressants. Je pense notamment à The Handmaid's Tale, où on part vraiment de l'adaptation sur la saison 1 d'une nouvelle, et puis ensuite tout le reste, aujourd'hui ils en sont à la saison 5 ou 6 je crois, et le fruit du showrunner et de la chambre d'écriture. Donc peut-être que nous verrons à notre grande âme fleurir une saison 2 de Bodies, et auquel cas il pourrait être intéressant de voir comment il remodifie les choses. Mais je suis assez d'accord avec toi, aujourd'hui la saison et la mini-série se tient tout à fait, et on aurait plutôt hâte en effet de voir continuer le showrunner dans de nouvelles aventures avec peut-être plus de moyens ou en tout cas d'autres thématiques quoi.
En fait, je vois une seule solution qui pourrait rendre la chose intéressante, c'est que tu fasses une seconde saison où tu réadaptes en fait le concept, c'est-à-dire celui à la limite d'avoir un même corps retrouvé à plusieurs époques temporelles, mais tu reprends pas les mêmes personnages en fait, parce que de mon point de vue, leurs arcs sont bouclés, leur trajectoire, enfin ils ont évolué, leur statu quo est intéressant quoi. Mais tu peux faire une autre saison où tu reprends peut-être le même principe, à la limite le même gimmick, avec des nouveaux personnages, et imaginons que effectivement à un moment tu raccordes les liens, tu raccordes les ponts avec l'un ou l'autre personnage de la première saison, tu vois. Mais je pense que c'est une erreur de faire une suite directe en fait.
Oui, un format semi-anthologique, ouais. Quelque chose qui pourrait être un peu à la Fargo.
Ouais.
On verra. Malheureusement, pas d'informations après quasiment 6 mois de diffusion de la série. Est-ce que sur le long terme, la série a continué à attirer autant de personnes qu'à ses débuts ? On ne le sait pas vraiment. Tout comme il n'y avait pas eu beaucoup de communication aux prémices de sa diffusion, il n'y en a pas beaucoup plus maintenant. Donc on peut tout à fait imaginer en effet que maintenant... toutes les équipes sont au travail sur quelque chose d'autre. Mais en tout cas, si jamais Bodies revient avec une saison 2 un jour, on sera là pour en parler. Peut-être que du coup, on fera un match retour avec toi pour voir si c'était ou pas une bonne idée. En tout cas, actuellement, ça reste une mini-série que on vous conseille, je pense, hein, assez ouais. Sincèrement. Si vous aimez les récits qui mêlent, je l'ai dit, science-fiction et quelque chose qui a plus de cœur, des personnages qui ont une vraie évolution, qui ont des vraies problématiques aussi humaines à gérer dans cette série, vous êtes à la bonne place avec Bodies. Avant de se quitter, Arnaud, puisqu'on se dirige tranquillement vers la fin de cette watchlist, je voulais profiter de ta présence pour parler un petit peu avec toi d'une autre série qui n'a rien à voir, mais pour laquelle tu as eu une petite part, c'est la série Invincible. D'ailleurs, du coup, hein, série animée disponible sur Prime Video, adaptée elle aussi d'un comics américain. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter, si c'est pas déjà fait, la watchlist qu'on avait consacrée à la première saison et à l'épisode spécial centré sur le personnage d'Atom Eve, qu'on avait donc fait à l'issue de cet épisode spécial. Et je vous précise aussi que on est en plein dans la saison 2 actuellement et qu'elle reviendra sur Prime Video pour sa deuxième partie à partir du 14 mars. Mais donc, tu as eu une petite place dans la version française, si je me trompe pas, de la série Invincible. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience ?
Ouais, bien sûr. En fait, j'ai une mission. Je suis missionné sur cette série animée pour la VF. J'ai un rôle de... Alors, le titre ronflant, c'est de consultant, ce qui veut tout et rien dire en tant que tel. Mais en fait, c'est vrai que pour celle-là, en tout cas, du côté de Amazon ou de Skybound, je ne sais pas, en fait, qui a eu cette initiative, ils ont demandé à ce que ceux qui bossent sur la VF aient quelqu'un qui soit... consultant pour la partie comics, c'est-à-dire en fait s'assurer que la VF de la série animée soit vraiment raccord avec les comics déjà publiés chez Delcourt. Donc en soi, c'est que c'est un travail qui est assez facile, puisque moi ça consiste surtout à relire les scripts qui sont produits par les traducteurs. Donc t'as une relecture où moi je m'occupe vraiment juste de regarder surtout tout ce qui est nom propre. Donc de tous les personnages, et donc à côté de moi, donc j'ai mon ordinateur avec le script, et à côté j'ai mes piles d'albums Invincibles, et je vais rechercher en fonction des scènes vraiment si les personnages en fait existaient déjà dans la BD, donc c'est le cas pour 95%, ou s'il s'agit de rajouts faits pour la série, et en quel cas de voir quelle a été la traduction qui a été employée pour que vraiment en fait l'objectif, tel qu'on me l'avait dit, c'était vraiment parce qu'ils savent que les fans de comics comme moi, on peut être casse-couilles, disons les vrais termes. Donc, ils voulaient vraiment s'assurer qu'il n'y ait à aucun moment sur la VF de bad buzz en mode « Ouais, vous avez mal traduit le truc, c'est pas... Voilà, vous avez mal fait le taf. » Donc, heureusement, je sais que c'est le cas, qu'on a surveillé. Le seul truc, je sais d'ailleurs, en anecdote, pour ceux qui regardent la VF, en fait, que entre la saison 1 et la saison 2, il y a une différence de prononciation sur le personnage de Séance Dog, parce qu'en fait dans la saison 1 c'est juste en fait une mention de Mark Grayson qui parle de son comics préféré, alors que Séance Dog apparaît vraiment dans la saison 2, dans la première moitié, et en fait dans la première saison je pense que en fait il a encore prononcé Séance Dog, parce qu'à l'époque, vu qu'on bossait sans les images, vu que j'avais que le script, moi j'avais dit c'est le personnage des comics, c'est Séance Dog, sauf qu'en fait il y a une question de droit d'utilisation de personnages qui fait que en fait pour la version animée ils n'ont pas pu utiliser le terme Science Dog en tant que tel, et c'est pour ça qu'ils l'ont adapté. Et sauf que en fait ça se voit, parce que dans la série animée en fait tu vois effectivement que c'est un chien qui fait du spiritisme un peu façon Doctor Strange, et pas du tout un chien qui fait de l'exploration avec un jetpack. Et sauf que j'avais dû faire pour la saison 2, faut absolument corriger ça, parce que il s'appelle vraiment comme ça, c'est une petite différence. Donc voilà, ça arrive, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui peuvent échapper, mais c'est la difficulté parfois de devoir bosser avec un script où tu ne vois rien. Ça c'est peut-être le moment qui est plus difficile parfois, mais c'est pas tout le temps, hein. En général on arrive quand même à bosser avec un épisode préliminaire où en fait on voit quand même l'action, même si c'est pas totalement terminé, et quand même on identifie plus clairement vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer ou pas, ce qui aide parfois aussi juste à, alors peut-être pas pour les questions de nom propre, mais parfois juste de voir dans la façon dont les personnages se parlent, dont ils interagissent, voilà. Donc je bosse avec quelqu'un qui est ma superviseuse, et qui est elle la personne du coup créditée sur les cartons AVF. C'est ma seule frustration, c'est de pas pouvoir voir mon nom apparaître là-dessus, quoi. En même temps, c'est quand même une partie minime du travail, mais par contre ce qui est cool, c'est que techniquement je pourrais déjà vous spoiler toute la saison 2, enfin tout le reste de la saison 2 ici même, quoi.
Bien sûr.
Et c'était surtout ce qui était vraiment le plus dur, c'était que avant que la saison 1 arrive, il s'est passé facile 6 mois, je crois, où moi j'avais déjà rendu tous les scripts et tout ça, où je voyais plein de gens balancer des rumeurs sur quand est-ce que ça allait sortir, enfin raconter tout et n'importe quoi, et ça c'était vraiment le plus dur de pas juste dire, arrêter de dire des conneries, quoi, c'est pas du tout ça.
Oui, parce que toi-même, du coup, sur ta casquette de journaliste, t'avais accès à des infos que tu ne pouvais pas utiliser, quoi.
Exactement, parce que sinon, bah, je suis en rupture de NDA, et puis je me retrouve avec les avocats par voie interposée de Prime Video sur le cul. Non, ça va. Oui. j'ai pas envie de ça.
Pas cool. Ok, et par curiosité, parce que du coup, là, tu parles de quelque chose qui est très écrit, parce que c'est des scripts, et du coup, mais en termes de prononciation, est-ce qu'il y a des gens aussi qui gèrent cet aspect prononciation? Est-ce qu'on peut imaginer que des noms, justement, d'extraterrestres ou de technologie ou de voilà, parfois ça peut aussi être un petit peu compliqué de savoir juste sur la base d'un nom écrit comment le prononcer.
Ouais, parce que ça, on en discute. Pour le coup, okay. il y avait eu des questions, bah, notamment pour le personnage de Cécile Stedman. On avait vraiment posé la question de est-ce qu'on l'appelle Cécile à la française ou est-ce qu'on dit Cecil comme dans la version anglaise. Et donc oui, il y a eu quelques cas de prononciation vraiment où pareil, tu vois, on dit Atom Eve, on dit pas Atom Eve pour le coup, parce que c'est vraiment tout est prononcé, on va dire, avec l'accent français. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles moi aussi je dois trancher. Et dans le cas en fait où il y a des noms qui apparaissent et où c'est pas et ça n'existait pas forcément dans les comics, parce que je sais que dans la saison 1, à un moment, quand ils recrutent des nouveaux gardiens du blog, il y a pas mal de noms qui sont droppés, qui sont pas des personnages qui existaient dans la BD, en fait, qu'ils les ont juste rajoutés comme ça. Et là, c'était vraiment la question de est-ce qu'on essaie d'en traduire certains ou pas, ou est-ce qu'on les traduit pas, vraiment pour voir, en fait, et effectivement, par rapport au nom qui avait été donné en question, valait mieux pas les traduire que d'avoir quelque chose qui aurait pu sonner un petit peu bizarre. Mais ouais, du coup, on discute aussi de la prononciation, comment ça doit se faire.
Ok, très bien. Bah, en tout cas, à titre personnel, et je pense qu'on le partage au sein de Spoilers, on a très hâte de revoir, enfin de voir cette saison 2 arriver. Moi, perso, j'ai lu les comics pour le coup, donc je sais ce qui arrive les futures saisons. Ça va être effectivement
assez... Ça va aller crescendo, ça c'est clair.
Bah, hein. C'est ça. C'est souvent ce que je dis effectivement aux gens qui découvrent la série ou qui veulent se lancer, c'est... Vous êtes pas prêt. Enfin, l'univers d'Invincible est bien plus vaste que ce qu'on peut voir au début, ce qui est déjà très cool. Le début est déjà très cool, mais on explore vraiment toutes les facettes possibles et imaginables de l'univers du super-héros, et on va aller très très loin dans tout ça. Et là, déjà, on l'a entreaperçu dans cette saison 2, mais on a Angstrom Levy dans ce début de saison 2 qui va avoir un rôle important à la fin de la saison 2, qui est déjà un antagoniste qui est assez dont on se souvient dans la BD parce qu'on a des doubles pages qui sont quand même assez marquantes, et on a très hâte de voir la série revenir et en parler du coup dans une nouvelle watchlist. En tout cas, merci de nous avoir ouvert un petit peu la petite lucarne de l'adaptation française.
Je me permets, si vous allez sur le podcast et que vous cherchez Invincible, en fait, j'avais fait plus d'une série de podcasts thématiques sur la série animée, et j'ai notamment une interview en fait du directeur artistique de la direction du doublage, Benoît Dupac, que j'ai interviewé, et également de Marie Chevalot qui donne sa voix à Tom Eve, où on aborde vraiment à la fois son tas, donc le boulot de Benoît en tant que directeur artistique, directeur de casting, et le travail de comédienne de doublage. Donc c'est toujours en ligne, c'est toujours intéressant, ça vous permettra de voir comment ces personnes-là travaillent.
Carrément, tu fais bien de le préciser, effectivement, on le mettra en description du podcast, et puis sur les réseaux, on le partagera derrière, parce que, écoute, j'étais passé à côté, mais je vais moi-même, après cet enregistrement, aller me mettre ça dans ma petite pile à écouter, avec grand plaisir. Au-delà de tout ça, de ton côté, du coup, Arnaud, c'est quoi un petit peu ton actu? Qu'est-ce qu'on peut attendre j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Elle est nulle, cette phrase. qu'est-ce que tu veux nous présenter en 2024? Je vais y arriver.
Alors, qu'est-ce que je veux vous présenter en 2024? Déjà, si vous voulez rejoindre les gens qui écoutent First Print ou qui lisent Comics Blog, n'hésitez pas à faire un tour là-dessus. N'hésitez pas à aller dans vos bibliothèques lire des comics pour vous initier à ça, parce que ça reste de la lecture de BD. Il y a plein de choses formidables à découvrir. Moi, c'est vraiment l'idée avec ces médias, c'est de transmettre de la passion, en fait, et de la curiosité. Après, de façon plus concrète, j'ai pas grand chose à vendre, hein, parce que ce que je vends, c'est des podcasts gratos et de l'actualité qui est aussi gratos. Mais par contre, je fais aussi un peu de traduction de bande dessinée. Je traduis une série notamment qui s'appelle Love Everlasting de Tom King et Elsa Chartier, qui est une dessinatrice française qui plus est, mais qui travaille pour les États-Unis. Ça sort c'est sorti chez Urban Comics. Et si vous avez aimé Bodies, quelque part, ça peut un peu vous intéresser, puisque en fait, c'est une forme de. on va dire au départ, ça part en fait comme une forme d'hommage aux comics de romance des années 50-60, avec donc une femme qui est prise dans des histoires d'amour impossibles. Ah, elle peut pas aimer son boss parce qu'en même temps, c'est le mari de sa meilleure pote et tout ça. Et qui va se rendre compte qu'en fait, qu'elle est prise dans une forme de cercle infernal d'histoires d'amour différentes où elle est obligée de vivre des histoires d'amour différentes à chaque fois. Et que dès qu'elle trouve l'amour, en fait, ça recommence à zéro et elle va commencer à s'en rendre compte et ça va devenir absolument terrible pour elle. Elle va essayer de s'en sortir de cette forme de cercle, de cette boucle temporelle très très bizarre. Et il y a le deuxième tome qui sort en mars, donc là bah, vous avez, il y aura deux tomes, je pense que les deux tomes permettent vraiment de vous faire une bonne idée de cette approche assez expérimentale et assez, vraiment assez unique, hein. Je dis pas ça parce que je le traduis mais parce que vraiment c'est une proposition vraiment très forte dans la BD américaine qui peut peut-être vous intéresser. Et si vous voulez que je touche 0,5% du prix de vente en tant que droit d'auteur, ça me permettra de rembourser mon avance, que sinon je ne rembourserai jamais, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas c'est vraiment une bonne BD que je vous recommande, très 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 chouette.
Ok, très bien. Bah écoute, on suivra ça avec attention. Je précise aussi à toutes fins utiles que vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi soutenir First Print. Je crois que vous avez toujours un financement ouvert
sur Tipeee, ouais.
Sur Tipeee, voilà. Parce que, comme tu l'as dit, on est beaucoup à produire du contenu gratuit et le but c'est pas non plus de le rendre payant, mais
c'est beaucoup parfois, de travail.
Ça demande, voilà, ça demande du temps, ça demande aussi parfois de l'investissement pour aller dénicher des personnes qui sont intéressantes, qui sont un peu au-delà de son cercle, son réseau familier, on va dire, de confort. Enfin, vous en tout cas chez First Print, ces dernières années, vous avez clairement pu toucher un maximum de personnes et c'est hyper impressionnant les gens que vous arriver à ramener sur votre podcast et vous en êtes très fier à chaque fois et je crois que c'est important aussi de soutenir voilà des médias qui sont plus indépendants mais aussi plus éthiques quelque part, plus précis, plus intéressant, plus passionné. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour voilà sur les financements des gens qui vous pourvoient en contenu intéressant et First Print en fait partie. Bah écoute, je crois que c'est la fin de cette watchlist. Merci beaucoup Arnaud encore une fois d'avoir été avec nous pour parler de Bodies. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers hein, sur votre fournisseur préféré de podcast. On est présent un petit peu partout et on le dit à chaque fois, mais nous mettre 5 petites étoiles et un commentaire si vous en avez envie. C'est voilà, on parlait de dons financiers. Nous, on n'a pas de choses ouvertes à ce stade, mais c'est vrai que ce genre de petites démarches de notes et de commentaires, c'est la meilleure manière de nous soutenir en 2024. On le répète à chaque épisode, mais c'est important de le dire.
Ouais, t'as tout à fait raison. Ouais. C'est vrai que tu parlais de notre Tipeee, mais en fait, nous, les étoiles et les gentils commentaires, on prend aussi quoi, tout ce qui permet la visibilité du podcast. De toute façon, voilà, c'est comme ça. C'est un soutien qui paye pas de mine. Et c'est clairement ouais, la première des démarches à avoir. En fait, si vous appréciez les contenus de créateurs indépendants, ben, effectivement, dites-leur. C'est comme le Know You Are Loved, vraiment, c'est un vrai impératif. En fait, il faut que les gens qui font des contenus sachent que ceux qui les apprécient l'apprécient, parce que sinon c'est quand même dur de savoir en fait la portée qu'on a ou juste l'intérêt qu'on suscite.
Mmh, complètement, c'est vrai. Bah écoute, je n'aurais pas de meilleure conclusion que celle-ci en recitant la phrase clé de la série Bodies. Merci à tous et à toutes, et puis à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut Arnaud.
Salut.
Bonus. Trax.
Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes? Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des Légendes. Avec une équipe d'experts différentes à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des Légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label.
Bonus.